Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À en juger par les réactions sur les réseaux sociaux, à l'annonce du sujet de ce soir, nous devrions avoir un certain nombre d'archivistes à l'écoute. C'est que la profession est inquiète depuis que Le Monde a publié des extraits d'un document de synthèse du ministère de la Culture consacré à la refonte de la politique culturelle. Dans ce document, censé rester confidentiel, il est notamment recommandé de s'en tenir à la collecte des archives essentielles. C'est peu de dire que cette piste a été mal accueillie. Non pas que les archivistes considèrent que tout document mérite d'être archivé, choisir, trier, écarter, c'est bien là le cœur du métier, mais pour les professionnels, rejoints par de nombreux historiens, cette approche témoigne d'une volonté d'aborder ces questions sous le seul angle budgétaire. Il est vrai qu'archiver coûte cher, 6 millions d'euros par an pour conserver 100 km, peut-on lire dans le document. Le ministère aurait donc l'intention de réduire les coûts en resserrant la sélection. Alors faut-il y voir le risque d'une perte de mémoire jusque-là conservée ou au contraire la mise en place de meilleures pratiques? Si ce désengagement est confirmé, à qui confier les archives non essentielles? Et d'ailleurs, toutes les archives sont-elles essentielles? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à quatre invités, à commencer par vous, Céline Guillon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes archiviste, première vice-présidente de l'Association des archivistes français, l'AAF, spécialiste de l'archivage numérique. Vous avez accompagné notamment des collectivités, mais également des entreprises, puisqu'on va voir que le monde des archives est assez étendu. Pour discuter avec vous, Raphaël Branche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen, co-initiatrice d'une pétition « Les archives ne sont pas des stocks à réduire », pétition qui a été lancée après la publication de ce document dans Le Monde. Vous êtes par ailleurs membre du Conseil supérieur des archives qui a pour mission de conseiller la ministre de la Culture en matière de politique d'archivage, ce qui veut dire qu'a priori, vous devez avoir quelques contacts avec notre troisième invité, Hervé Lemoine. Bonsoir.
Bonsoir.
Puisque vous êtes le directeur chargé des archives de France. Vous êtes vous-même archiviste, je crois, conservateur général du patrimoine. Les archives de France qui, si j'ai bien lu, c'est peut-être pas exhaustif, mais regroupe les archives nationales, régionales, départementales et communales. On pourrait presque dire, etc.
Oui, à peu près. Enfin, disons que les archives de France ont pour mission de porter et de concevoir la politique de la nation en matière d'archives, et avec évidemment tous les opérateurs que vous venez de citer, c'est-à-dire les archives nationales, départementales, communales. Donc c'est une responsabilité partagée entre l'État et les collectivités territoriales.
Alors l'ambition n'est pas aussi large, mais il y a quand même une ambition dans l'IMEC que vous dirigez, dont vous êtes le directeur littéraire Albert Dichy. Vous êtes notre quatrième invité. Bonsoir.
Bonsoir.
L'IMEC, c'est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine qui a été créé en 1988, qui rassemble, alors là je vais lire ce qui est écrit sur le site, qui rassemble, préserve et met en valeur des fonds d'archives et d'études consacrés aux principales maisons d'édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de la création contemporaine. Ce qui veut dire, c'est quoi? C'est une sorte de petite BNF, de petite Bibliothèque Nationale de France?
C'est un peu différent, c'est-à-dire que d'abord, les archives que nous recevons sont des archives qui viennent du monde privé, qui ne sont dans une maison indépendante, qui ne dépendent pas donc directement de l'État. C'est peut-être une des grandes différences avec les autres grandes institutions. Et c'est aussi un lieu qui est consacré aux contemporains, ce qui est un point important et intéressant, puisque le contemporain, c'est aussi ce qui offre moins de visibilité, et donc la question effectivement de l'archive. Qu'est-ce qui est une archive importante, essentielle, comme tout le débat porte autour de ce mot-là.
Et peut-être d'ailleurs aussi, pour commencer, Albert Dichy, qu'est-ce que c'est qu'une archive, avant de se demander ce que c'est qu'une archive essentielle, au risque d'être un petit peu scolaire, je pense qu'il faut se poser cette question, parce qu'autant c'est un terme qui paraît être finalement assez évident et qui ne l'est sans doute pas. Comment est-ce que vous répondriez à cette question en quelques mots, Céline Guillon?
En quelques mots, donc les archives ont une définition officielle qui est posée par le Code du patrimoine. Donc les archives sont l'ensemble de documents qui sont produits dans le cadre d'une activité. Et les archives publiques sont les documents qui sont produits par l'administration dans le cadre de ses activités. Donc un document ne devient pas archive avec le temps. Un document naît archive et au cours de sa vie, il a plusieurs usages, plusieurs utilités, alors que dans l'esprit commun, finalement, les archives ne seraient que les sources de l'histoire, c'est-à-dire les documents utilisés par les historiens pour dans leur pratique quotidienne.
Alors, dans l'esprit commun auquel j'appartiens, pour moi, pour qu'il y ait archive, il fallait qu'il y ait une volonté de faire d'un document une archive. Ça n'est pas forcément le cas, Raphaël Branche, si j'ai bien compris.
Je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour répondre à la question de mon voisin Trépine, mais je voudrais juste...
Comme membre du Conseil supérieur des archives.
Absolument, juste rappeler qu'effectivement, l'archive sert à la fois à l'intérêt historique et scientifique, c'est ce que dit le Code du patrimoine, et aussi à l'utilité administrative. Donc en fait, elle sert aussi aux citoyens pour faire valoir des droits. Et ça, c'est absolument essentiel, et vraiment, pour le coup, sans jeu de mots. Je voudrais juste en profiter aussi pour rappeler qu'on dépend en ce moment de la loi de 2008, la loi sur les archives de 2008, qui a changé un certain nombre de choses et qui a créé un registre d'archives dont on n'a pas parlé, mais qui, voilà, je voudrais mentionner, qui s'appelle les archives incommunicables. Une nouveauté de cette loi qui pose aussi problème, c'est-à-dire qu'il existe des documents qui sont considérés comme des archives et que personne ne verra jamais, si on pouvait aussi les évoquer.
Hervé Lemoine.
Oui, je trépigne pas du tout. Je suis très satisfait parce que toutes les définitions qui viennent d'être données sont très complètes. Je voulais juste préciser quand même que la définition des archives publiques en France est une définition extrêmement large. Et comme on l'a indiqué, c'est une des particularités d'ailleurs de la définition française, mais c'est aussi une de ses richesses à mon avis, c'est que les documents ne deviennent pas archives, ils naissent archives, entre guillemets. Ce qui fait qu'effectivement, le regard, la vie de ces documents, de ces archives, de ces témoignages de l'histoire de chacun est toujours sous le regard de l'archiviste, quels que soient les moments, je dirais.
Mais pour prendre quelques exemples, Hervé Lemoine, ça peut aller de quel type de document à quel type de document pour les archives de France?
Comme l'évoquait Céline Guyon, la grande différence, c'est qu'il y a les archives publiques et les archives privées. Les archives publiques, c'est tout ce qui procède de l'activité de l'État et des collectivités territoriales, mais aussi des établissements publics, par exemple, ou des associations ou organisations qui sont chargées d'une mission d'archives publiques. Alors, pour prendre des grandes typologies très communes, c'est l'état civil, c'est le cadastre, ce sont les minutes de notaire, ce sont évidemment les hypothèques, ce sont les documents fiscaux, de justice, de police, enfin, je prends des grandes typologies. Et après, il y a les documents d'archives privées, c'est-à-dire les documents plus personnels, mais aussi des documents d'associations, de partis politiques, de syndicats. En France, ce sont des archives privées. Donc la grande partition, je dirais, si on était un peu schématique, c'est vraiment public d'un côté et privé de l'autre.
Privé, c'est le cas de l'IMEC, c'est ça,
hein, oui,
Albert Dichy. Est-ce que ça veut dire que vous avez une définition, du coup, différente de ce qui constitue une archive?
Écoutez, on pourrait prendre le problème un peu à l'envers pour ce qui concerne les archives privées. C'est-à-dire qu'on peut penser que, d'une certaine façon, devient archive ce qui entre dans les collections d'un établissement. Avant, ce sont les papiers. Un écrivain, il va parler plutôt de ses papiers. Il ne constitue pas tout de suite son archive. Il a des papiers de travail et il y a cette opération qui est au centre de peut-être de tout ce dont on parle aujourd'hui, qui est le moment du tri et de la collecte.
Et, donc il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'utilité que peuvent avoir ces papiers.
Il y a ce qu'on prend et il y a ce qu'on ne prend pas. Et là, il y a des décisions qui sont parfois arbitraires, qui obéissent à des logiques, à des règles, mais voilà. On va peut-être dire que, d'une certaine façon, je sais pas moi, les factures d'électricité pour un écrivain, si nous ne les prenons pas, ce ne sont pas des archives, ça reste des archives de la personne ou de l'EDF ou de, mais en tout cas, elles ne rentrent pas dans les archives de l'auteur et si on les prend, elles y entrent.
Céline Guyon.
Oui, la question de l'utilité des archives renvoie à deux autres questions. À quoi servent les archives? Donc on l'a rapidement ébauché. Les archives, elles servent à prouver, à se souvenir et à comprendre. C'est-à-dire qu'avant d'être source pour les historiens, les archives sont un support de preuve et de bonne gouvernance. D'ailleurs, la création des archives nationales au moment de la Révolution française participe justement dès l'origine à cette démarche de transparence administrative inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme où tout citoyen peut demander à l'administration de rendre compte. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on conserve des archives? On conserve des archives pour faciliter la gestion et la bonne activité de l'administration. On conserve des archives pour permettre aux citoyens, comme vous le disiez, Raphaël Branche, d'exercer leurs droits. Et on conserve les archives parce qu'on conserve la mémoire individuelle et nationale de la société.
Alors maintenant qu'on a fait cet effort nécessaire et essentiel de définition, venons-en à la question qui nous occupe ce soir et qui a donc été provoquée par la diffusion de ce document par le Journal Le Monde, diffusion d'un document interne au ministère de la Culture qui évoque notamment ceci, la nécessité de recentrer la collecte sur les archives essentiel. Raphaël Branche, donc vous avez réagi en étant la co-initiatrice d'une pétition disant « Les archives ne sont pas des stocks à réduire, elles sont la mémoire de la nation ». Enfin, en disant, vous dites beaucoup plus que ça, ça c'est le titre de la pétition. Mais en tout cas, est-ce que déjà sur cette idée qu'il puisse y avoir, puisque si on parle d'archives essentielles, ça laisse supposer qu'il y a des archives qui ne le sont pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction-là ?
Non, ce que j'en pense, enfin, c'est qu'évidemment, elle est tout à fait problématique et qu'elle renvoie en même temps à ce que font toujours les archivistes, c'est-à-dire se poser ce genre de questions. En fait, ils se la posent tout le temps depuis le départ. Et contrairement à ce qu'on imagine peut-être, ils se la posent dès la collecte, c'est-à-dire dès la production de l'archive. Et là, il y a un des enjeux, il y a un enjeu citoyen important qui est de sensibiliser les producteurs d'archives, en particulier les producteurs publics, au fait qu'ils doivent à un moment penser à déposer leurs documents. Je reviens à ma question des archives incommunicables. Si on imagine que ce qu'on va produire ne sera jamais vu, évidemment, sans doute qu'on ne conserve pas de la même manière que si on sait que 30 ans plus tard, n'importe quel citoyen pourra aller voir les documents. Donc il y a une relation entre collecter les archives, produire les documents et l'accès pour les citoyens.
Mais à partir du moment, Raphaël Branche, à partir du moment donc où vous dites que ça fait partie du travail de l'archiviste que de faire des choix, peut-être aussi parfois des tris et donc peut-être parfois aussi détruire, ça veut dire que parler d'archives essentielles, ça n'a pas de sens pour vous ? Ou qui veut répondre peut-être?
Non, effectivement. Enfin, je voudrais juste, revenir quand même sur cette question.
Non, je voudrais que vous répondiez à ma question, parce que sinon, on ne va pas réussir à avancer dans la discussion. Alors, si quelqu'un d'autre veut y répondre, Hervé Lemoine, archives essentielles, ça veut dire quoi?
Non, mais ça veut dire les archives. Alors, le mot est peut-être pas le mieux choisi, entre parenthèses, mais bon, peu importe. Disons que les archives essentielles, ce sont les archives qui, après ce qu'on appelle leur durée d'utilité administrative pour les archives publiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles n'ont plus d'utilité d'un point de vue administratif à être conservées, la question de l'archiviste, c'est de se dire, est-ce que du coup, est-ce qu'on les détruit ou est-ce qu'on les conserve pour servir à la recherche, à l'érudition, à la science, bref, c'est la définition de la loi, d'ailleurs. On ne conserve que ce qui peut servir à la recherche, normalement. Le reste, une fois que l'utilité administrative est terminée, on peut les détruire.
Mais si c'est déjà dans la loi, ça sert à quoi de le mentionner ?
Ah mais non, parce que toute la difficulté, c'est de savoir ce qui peut véritablement nourrir la recherche, nourrir la connaissance, sachant que nous ne sommes pas tous prophètes et qu'on ne peut pas se projeter forcément dans les axes de recherche qui seront développés par les historiens, les sociologues, les politologues, etc., dans 100 ans ou dans 200 ans, et que donc toute la difficulté de l'exercice, alors qu'on exerce un droit de vie ou de mort sur le document, en quelque sorte, c'est de savoir, justement, d'arriver à se projeter, entre guillemets, sur ce que pourrait être la recherche future, et donc de ne pas altérer les sources de cette future recherche.
Alors, je reviens vers vous, Raphaël Branche.
Alors, je suis désolée de revenir à des choses prosaïques, mais la pétition est aussi lancée parce qu'on a un problème de place et de stockage, et donc précisément, on mélange des enjeux qui sont essentiels et sur lesquels on est évidemment tous d'accord, c'est-à-dire réfléchissons bien avant de détruire, à où est-ce qu'on va mettre les archives qui arrivent et que pour des raisons conjoncturelles, parce qu'on a un site qui est amianté, dans lequel il y a beaucoup d'archives et qui arrivent en catastrophe dans un local qui n'est pas prévu pour, on est en train de se dire, et c'est aussi prévu dans le rapport, peut-être détruisons plus que nous faisons d'habitude. Donc là, il y a une question de conjoncture qu'il faut poser, c'est une question politique, c'est-à-dire est-ce qu'on va construire un nouveau bâtiment rapidement pour récupérer ces archives et prendre le temps de réfléchir à ce qu'éventuellement on va trier. C'est aussi ça, cette pétition. C'est pas que des réflexions sur les archives essentielles parce que finalement, ce mot, il est maladroit et la question, elle est historique, finalement. On a toujours posé la question de la sélection, du tri, etc.
Alors, avant de redonner la parole à Céline Guillon et à Albert Dichy, une réaction d'Hervé Lemoine sur cette formulation qui serait très conjoncturelle, c'est-à-dire qui servirait peut-être à répondre à des contraintes budgétaires, c'est-à-dire ça prend beaucoup de place, il n'y a pas assez de budget.
Non, je ne partage pas du tout ce point de vue. Cette réflexion, elle a été entamée d'abord il y a bien plus longtemps que la date de publication de ce document. Elle est une réflexion qui est au cœur du métier de l'archiviste. Et en réalité, nous fonctionnons aujourd'hui sur une doctrine qui a été forgée il y a 40 ans dans les archives, sans prendre en compte la révolution bureautique et numérique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes un peu au pied du mur, pas pour des questions uniquement de budget ou de bâtiment, mais nous sommes au pied du mur, c'est-à-dire que nous sommes obligés de revoir, ou à mon avis, c'est d'ailleurs même très stimulant, les critères d'évaluation et de choix des archives, parce que aujourd'hui, la révolution bureautique et le numérique a complètement, je dirais, un peu brouillé les cartes et nécessite de revoir notre propre doctrine pour procéder à cette fameuse sélection, qui est par ailleurs quelque chose de très délicat.
Est-ce que vous êtes confronté aux mêmes contraintes, Albert Dichy, du côté de l'IMEC ?
Peut-être pas aussi fortement, mais la question de toute façon du tri se pose toujours. Je veux dire, il faut bien le savoir, il y a toujours eu un tri. Alors, même lorsque l'IMAC s'est créé, donc il y a 25 ans à peu près, c'est vrai que l'IMAC s'est créé contre une certaine culture de ce qu'on appelait à l'époque les archives nobles. C'était déjà une façon de nommer les choses, les grands manuscrits qui étaient montés sur onglet, et avec plutôt un désintérêt pour tout ce qui était de l'ordre du document qui entourait les travaux préparatoires, tout ce qui aboutissait à ce bel objet qu'était le beau manuscrit. Donc l'IMEC s'était créé au départ un petit peu contre cette pensée, avec l'idée utopique, mais il faut avoir des utopies dans la vie, de prendre tout. C'était le mot d'ordre au départ. Inutile de vous dire que nous avons aussi beaucoup reculé sur ce plan.
Pour des questions financières, notamment.
Pour des questions de place, de coûts, de personnel, en même temps d'ailleurs que ce qui était à l'époque, ce contre quoi on se construisait un petit peu, qui était une certaine image de la Bibliothèque nationale de l'époque. La Bibliothèque nationale a elle-même évolué et comment dire, a progressé dans le sens que nous tracions nous-mêmes, c'est-à-dire elle prend aujourd'hui beaucoup plus de documents et d'éléments autour de chacun des trucs. Donc voilà. Mais cette question est centrale. C'est vrai que nous avons le souci plutôt de prendre, je dirais même, de l'inessentiel, sachant que parfois l'inessentiel est formidablement intéressant. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, il y a eu une exposition à l'IMEC faite par Jean-Christophe Bailly qui s'appelait L'Ineffacé, et il a retenu tout ce qui à nos yeux nous paraissait inessentiel, j'allais dire. Par exemple, dans les archives de l'ethnologue Pierre Clastre, les dessins d'enfants guaranis qui n'avaient jamais vu de crayon de leur vie et qui s'essayaient pour la première fois à des dessins. C'est une archive qui, au fond, lui-même ne l'a pas exploité, il ne l'a pas conservé. À quoi elle sert? C'est une question, mais elle est formidable.
Il y a deux questions très très importantes que vous évoquez là tous les quatre depuis le début de cette émission. C'est à la fois évidemment ce que l'on considère comme une archive, même si j'ai bien compris depuis le début avec la définition que vous avez donnée, qu'il s'agit pas d'un acte volontaire de décider voilà tel document est une archive, mais en tout cas il peut y avoir quand même une hiérarchie, et ensuite il y a un travail et il y a un tri qui s'effectue. Et puis la question du coût, qui n'est quand même pas une question mince aujourd'hui. On pouvait imaginer, enfin en tout cas spontanément, moi c'est vers cette piste-là que je serais tenté d'aller, Céline Guillon, qu'avec la numérisation, la question du coût pouvait être moins importante, parce que normalement, quand on numérise, on prend moins de place, donc le stockage des archives est censé être moins onéreux. Mais j'imagine que, comme toujours, quand on a des intuitions un petit peu comme ça, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, exactement, c'est beaucoup plus compliqué, puisque le numérique pose la question que vous évoquez du stockage, mais pas que. Parce que derrière le numérique, il y a la question de la fiabilité de l'information, de la fragilité de l'information. Donc il faut être capable de conserver ces informations numériques dans le temps long, indépendamment de l'obsolescence des technologies. Et donc c'est une organisation à mettre en œuvre avec du personnel, des compétences, bien sûr des moyens qu'il faut adapter et mettre en œuvre pour se poser la question de la pérennité de l'information, parce que l'objectif de la collecte des archives, l'objectif derrière, c'est de mettre à disposition ces archives, de les mettre à disposition du citoyen, de l'historien, de tout un chacun. Et l'accès aux archives, il faut quand même le rappeler, l'accès aux archives dans les services publics d'archives est un accès libre et gratuit. Tout un chacun peut venir aux archives, consulter des documents sans avoir à justifier d'une intention. Voilà.
Absolument, c'est essentiel.
Raphaël Branche.
Non, c'est vraiment essentiel. Et pour en parler parfois dans les lycées, je me rends compte que les gens l'ignorent complètement. C'est-à-dire que l'archive est un espace fantasmé, où il y a des secrets, où par ailleurs la vérité serait toute nue, il suffirait d'ouvrir le carton. Enfin bon, ça pose plein de questions aux historiens aussi. Donc bien sûr que dans les archives, il y a un matériau qui se traite, qui s'analyse, qui s'interprète. Mais effectivement, je voulais aussi évoquer cette question de l'accès et de l'accessibilité, parce que le numérique, c'est aussi l'accès. En ligne, on peut voir les archives, on a vu le succès des matricules mises en ligne pour la Première Guerre mondiale. Donc, et là, ça crée aussi une forme de trouble, c'est-à-dire que ça serait sans filtre, alors que bien sûr que non, tout ce qui est mis en ligne a été préalablement sélectionné, choisi, conservé et inventorié, et il y a un petit mot-clé quand même pour l'accès du citoyen, il ne va pas directement aux archives, il va d'abord à des inventaires, c'est-à-dire des instruments de recherche fabriqués par des archivistes en relation avec des chercheurs au nom d'un certain nombre de problématiques, et là aussi il y a des questions politiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des choix qui sont faits dans les archives en France d'inventorier certains fonds et pas d'autres, parce qu'on imagine qu'il y a une demande sociale plus forte sur certains domaines. Moi, je travaille sur la guerre d'Algérie, l'Algérie coloniale. Des accents ont été mis sur cette thématique parce qu'on considérait qu'il y avait une demande sociale. Et puis d'autres espaces sont plus délaissés. Donc, les archives, c'est tout un monde très complexe d'articulation sans cesse entre le travail de l'État, la production de l'État et une demande sociale et donc un intérêt et donc une vision des générations futures qui est en fait déjà là.
Alors, je rappelle la question qu'on pose ce soir. Toutes les archives sont-elles essentielles ? Nous le faisons en compagnie d'Albert Dichy, qui est le directeur littéraire de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, de Céline Guillon, première vice-présidente de l'Association des archivistes français spécialisés dans l'archivage numérique, Raphaël Branche, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen et membre du Conseil supérieur des archives, et le directeur chargé des archives de France, Hervé Lemoine, qui veut réagir.
Oui, juste dire une chose, un élément. Par exemple, les archives centrales de l'État, si l'on peut dire. Nous avons conservé du 8e siècle jusqu'à la Révolution française 20 km linéaires de documents. C'est-à-dire que l'histoire de l'État central de nos monarchies se trouve être documentée par 20 km linéaires d'archives. Et aujourd'hui, nous collectons, plus exactement, nous conservons à titre définitif pour les archives centrales de l'État, l'équivalent de 7-8 km par an. C'est-à-dire qu'en 2-3 ans, nous conservons, après de nombreuses éliminations, nous conservons pour l'éternité l'équivalent de ce que nous avons conservé pour couvrir 12 siècles d'histoire. Alors évidemment, nous le faisons bien mieux que ça n'a été fait sous l'Ancien Régime, où parfois, il faut bien le dire, qu'on n'avait jamais que ce qui parvenait miraculeusement dans les services d'archives.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pousser les murs ou est-ce que ça veut dire qu'il faut
place ? Ça veut dire qu'on a collecté, je pense, récemment, mais parce qu'on n'avait pas forcément anticipé, je vous dis, l'explosion documentaire née de la bureautique et du numérique. On a étendu peut-être trop la collecte d'archives qui ne sont pour le coup pas essentielles et que nous conservons à titre définitif. Je vais vous citer un exemple. Nous avons, et je bats ma coupe, les archives de France qui ont donné une circulaire comme quoi il fallait conserver toutes les archives des cinquième catégorie de contravention. Je ne suis pas persuadé que les archives sur des délits couverts par les cinquième catégorie de contravention soient vraiment essentielles. En revanche, ce dont monsieur parlait pour l'IMEC, oui, j'entends bien que ce que vous dites là, c'est très important. Moi, je pense aussi aux archives qui sont au mémorial de la Shoah, aux archives d'ATT Quart-Monde. Si on n'avait pas des associations qui, à côté de l'État, s'étaient emparées de ces sujets, on aurait perdu des pans entiers de connaissances et de compréhension de nos sociétés. Et moi, je trouve que ça serait intéressant avec les archivistes, tous les archivistes du réseau des services publics et les historiens, peut-être qu'on s'interroge sur une collecte massive d'archives administratives qui toutes n'ont pas d'intérêt à être conservées pour l'éternité. En revanche, d'autres fonds, dont ceux dont nous parlions, qui concernent vraiment la société. Je pense aux archives LGBT aussi, par exemple, qui ont été délaissées. Eh bien, je suis navré, ces archives, elles permettent de comprendre notre société aujourd'hui. Les contraventions, c'est peut-être moins évident.
Donc, ça n'est jamais, en tout cas, à partir de critères budgétaires que sont décidées les politiques qui sont suivies en matière d'archives, Céline Guillon. Parce que quand on voit quand même les réactions qui ont été assez nombreuses, suite à la publication du document dans Le Monde, j'ai la pétition initiée notamment par Raphaël Branche, mais il y a aussi les organisations syndicales du secteur qui se sont émues de cette notion d'archives essentielles, toutes évoquaient justement l'idée que ça n'était pas en fonction de l'intérêt de l'archive qui était menée cette politique, mais en fonction de ses contraintes. Céline Guillon.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce geste de sélectionner les archives.
Juste sur ma question, si vous voulez. Oui. Je suis sur ces questions du critère budgétaire, c'est-à-dire pour vous, je rappelle donc vous êtes à l'Association des archivistes français, ça n'est pas quelque chose qui vous paraît être un des critères pour décider aujourd'hui de la politique des archives en France ?
Ah non, le critère budgétaire, non, et comptable, non, aucunement. Après, il faut aussi qu'on considère la masse des archives qui sont produites depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une production exponentielle de documents et de données aujourd'hui dans l'administration. Donc on a quand même ce critère de la massification qui doit être pris en compte dans notre démarche et dans notre pratique professionnelle de la sélection, hein, puisque ce geste de la sélection est vraiment au cœur du métier de l'archiviste. Et sélectionner les archives, c'est une véritable pratique professionnelle qui est partagée par les archivistes en France et les archivistes à l'international. Tous les archivistes procèdent à la sélection et donc nécessairement à la destruction d'une partie des archives. Et donc c'est une pratique qui est encadrée, qui est raisonnée et sur laquelle on réfléchit et qu'on fait évoluer. Et donc pour moi, cette question des archives essentielles, elle pose une autre question qui est essentielle, qui est celle de la qualité de la collecte et des moyens donnés par la puissance publique, hein, par l'État, par les collectivités, à la collecte. Derrière cette qualité de la collecte, il y a aussi les conditions de conservation des archives dans les administrations, avant même qu'elles soient versées dans les services d'archives.
Alors, Raphaël Branche et ensuite Albert Dichy.
Je voulais peut-être donner un exemple sur cette histoire de sélection qui est la pratique du carottage. On conserve, on a longtemps conservé dans les archives publiques une année sur 10, une année sur 5 de documents, par exemple des registres d'écrou de prison. J'ai une élève qui travaille sur ça en ce moment, elle travaille sur les registres d'écrou et on a conservé les années en 5. Quand on travaille sur la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962, il n'y a que l'année 1955 finalement qui se retrouve présente. Donc ça pose un énorme problème, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas travailler sur cette question puisque la sélection qui a été faite en amont ne permet pas de le faire. Alors on a dans le rapport proposé de renoncer à ce fonctionnement, en tout cas de le faire en relation avec les historiens, et j'y insiste parce que les archivistes ont des critères, mais les historiens en ont d'autres, et en particulier la question de la chronologie. Découper tous les zéros, tous les cinq, ça n'a pas de sens quand on travaille sur des périodes qui sont différentes. Et une autre petite remarque sur la comparaison qu'a fait Hervé Lemoine sur la production de l'État monarchique par rapport à la production de l'État depuis la Révolution, on peut quand même se féliciter de plus être sous l'Ancien Régime de ce point de vue-là, que l'État se soit développé, que les Français se soient appropriés les et que heureusement on produise davantage. Par ailleurs, depuis la Révolution,
je
précise quand même que la discipline historique est née, hein, et avec elle un certain nombre de questionnements et donc un rapport aux archives. Non, mais ça me gêne un petit peu qu'on raisonne simplement en termes de volume, même si on est noyé peut-être en ce moment. Mais voilà, il faut quand même avoir une relation avec ce qu'on fait des archives.
Honnêtement, je suis d'accord, bien sûr, mais il faut voir ce que représente ce travail de sélection une nouvelle fois. Un service départemental d'archives aujourd'hui, il a 3000 interlocuteurs face à lui. 3000 en moyenne. 3000 organisations administratives, parapubliques, publiques, etc., qui doivent lui verser normalement ses archives. Et donc l'archiviste doit analyser, expertiser 3000 flux continus de documents d'archives. Et là, on voit bien que, si vous voulez, la méthode... Normalement, hein, je vous décris la méthode telle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, dans le Code du patrimoine, on dit l'archiviste doit documenter ce qu'il détruit. C'est-à-dire, grosso modo, il n'a pas justifié ce qu'il garde. Il doit justifier de ce qu'il détruit. Mais comme il doit détruire la production, le flux de 3000 organisations versantes tous les ans, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y arrive? Évidemment que non. Donc évidemment qu'on est sur un système qui ne fonctionne pas depuis très longtemps, si ce n'est qu'on ne voulait pas se le dire. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on voudrait faire, et avec évidemment les historiens, qui sont les premiers avec lesquels on doit travailler ces questions-là, c'est de renverser le principe et de se dire, ok, on ne peut pas tendre à l'exhaustivité, c'était plus possible. Alors maintenant, il faut absolument se dire, qu'est-ce qu'il est important, j'aime pas le terme d'essentiel, mais qu'est-ce qu'il est important, qu'est-ce qu'il serait important de conserver, parce que quoi qu'il arrive, sinon on va être absolument débordé par une espèce de tsunami de production administrative qui n'est pas toute intéressante.
Et oui, peut-être aussi sur quels autres acteurs s'appuyer pour essayer aussi de relever ces défis, Albert Dichy. C'est aussi à ça que sert l'IMEC, c'est-à-dire d'avoir une offre qui ne soit pas une offre concurrente, mais peut-être une offre complémentaire en matière d'archives.
Bien sûr. Même si, évidemment, pour répondre à votre question sur les budgets, et pour vous répondre honnêtement, oui, bien sûr que pour des raisons budgétaires, même si nos collections continuent à s'accroître et à s'enrichir de façon continue. Nous venons de recevoir les archives de Jean Baudrillard, de Paul Virilio. Donc mais malgré tout, nous avons énormément réduit le nombre de fonds que nous accueillons.
Selon quels critères, d'ailleurs, quand vous faites une réduction de fonds?
Eh bien, nous sommes plus sélectifs, nous prenons des écrivains plus confirmés, mais évidemment, il y a une question arbitraire, hein, c'est-à-dire qu'on peut se tromper, mais nous le faisons.
Est-ce que ça, c'est quelque chose de difficile à entendre quand on est historienne comme vous, Raphaël Branche?
Non, enfin oui et non, bien sûr qu'on aimerait toujours tout.
J'imagine que l'historien voudrait qu'on conserve tout, a priori.
Je suis pas sûre, non, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à travailler. Donc on a quand même besoin qu'il y ait des archivistes qui aient regardé, qui aient trié, qui aient fait des inventaires. Non, je c'est pour ça que je parlais de fantasme tout à l'heure. Je crois pas qu'on soit dans cette transparence, la production et tout de suite l'analyse. En revanche, je crois qu'il faut quand même utiliser des gros mots et parler d'argent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un énorme problème. Cette prolifération de sources, elle n'est pas suivie d'un recrutement de personnel à la hauteur, c'est-à-dire formé aux techniques numériques et puis tout simplement assez nombreux et assez motivés. Enfin, il y a des problèmes toutes bêtes de salles qui sont fermées comme ça. On découvre, on ne sait pas pourquoi, de restriction de nombre de cartons par jour à la communication. Enfin, voilà, c'est des choses concrètes qui gênent l'accès aux archives et qui ont à voir, je pense quand même, avec des questions de personnel et d'espace et de locaux. Et ce n'est pas une question que je pose au directeur des archives de France. Bien sûr, c'est une question beaucoup plus large et beaucoup plus haute. C'est-à-dire, les archives, c'est la mémoire de la nation. Ce n'est pas quelque chose qui est conjoncturel et on coupe budgétairement cette année. Parce que voilà, si on coupe cette année et qu'on détruit cette année, c'est pour toujours. Donc là, les choix qui sont en train d'être faits, et si on revient, y compris si ce qui semble avoir été évoqué, on revient sur des tris qui ont déjà été faits, on détruit des choses déjà conservées, ce qui a inquiété notamment plusieurs sociétés d'historiens étrangers qui ont dit, voilà, on a travaillé sur les archives, elles ne sont plus là ou elles ne seront peut-être plus là. C'est des enjeux qui sont pour toute la vie, pour l'éternité. Donc ces questions d'argent, elles ont une implication, je pense qu'il ne faut pas du tout les négliger.
Céline Guyon, oui, et ensuite Hervé Lemoine.
Je crois qu'autour de cette table, personne ne remet en cause la nécessité d'une sélection. Et en tant qu'archiviste, pour moi, ce geste de sélectionner, il est profitable à l'intelligibilité de l'archive, comme vous le disiez, Raphaël Branche, à l'intelligibilité, la compréhension de l'archive par l'historien. Mais derrière, en fait, la question qui se pose, c'est la question de la politique. Est-ce qu'on veut une politique ambitieuse et exigeante pour les archives ?
Vous nous disiez, en préparant l'émission, je crois que en discutant avec Fanny Richer, qu'il y avait quand même peut-être aussi une différence d'approche en matière d'ampleur du travail d'archives à réaliser selon qu'on est archiviste ou selon qu'on est historien. Céline Guillon, vous en souvenez pas de ça? Je veux pas non plus vous parler à votre place, hein, mais en tout cas,
le regard n'est pas le même sur l'archive. Je pense que c'est la question du regard. Voilà, l'archive devient source historique parce que l'historien pose son regard sur l'archive. Et l'archiviste, en fait, il exerce au sein des archives nationales, des archives départementales, communales, qu'on a évoquées en début d'émission, mais il exerce aussi dans des services qu'on appelle des services d'archivage intermédiaire, c'est-à-dire au sein de l'administration, dans les universités, dans les conseils régionaux. Et là, l'archiviste, il exerce sa mission de conservation des archives essentielles du point de vue du producteur des archives. Donc voilà, c'est ça qui est très important. Les archives, elles sont conservées et créées d'abord pour faire preuve. Et ensuite, elles deviennent matériaux de l'historien.
Hervé Lemoine.
Moi, je veux pas une politique ambitieuse, je veux une politique sincère pour les archives.
C'est quoi la différence?
Pour revenir à ce que disait Raphaël Branche.
C'est quoi la différence, Hervé Lemoine? Je comprends pas.
C'est que, aujourd'hui, une nouvelle fois, en termes de doctrine, nous sommes censés, une nouvelle fois, expertiser, analyser l'intégralité de la production archivistique publique française pour effectivement faire des sélections raisonnées afin de livrer aux historiens leur sagacité, je dirais, un échantillon, entre guillemets, le terme n'est pas bien choisi, mais disons une part de ce patrimoine qu'on considère être intéressant ou essentiel. La réalité, c'est que la production administrative est telle que nous ne parvenons plus, mais ça fait des décennies que nous ne parvenons plus, 2-3 décennies, que nous ne parvenons plus réellement à expertiser, analyser comme il le faudrait théoriquement l'intégralité de la production documentaire. Et donc, comme le disait Raphaël Branche tout à l'heure, le résultat de cela, c'est que les historiens ont déjà un matériau qui est le fruit aussi parfois de choix qui ne sont pas toujours des choix raisonnés, mais qui sont des choix subis par l'archiviste qui n'a pas les moyens, une nouvelle fois, mais qui ne les aura jamais parce que la production est devenue tellement exponentielle qu'elle est plus maîtrisable.
Mais en même temps, il faut peut-être s'appuyer aussi sur d'autres acteurs.
C'est pour ça que moi, je pense aussi qu'il faut moins travailler avec les producteurs, après tout, d'archives, qui, une fois que l'administration a fait son œuvre, ne sont pas les mieux placés pour considérer, à la différence des historiens, ce qui peut avoir un intérêt pour l'avenir. Or, aujourd'hui, quand nous détruisons les archives, on demande l'avis du producteur, c'est-à-dire de la service administratif qui a produit le document, alors que Après tout, il n'en a plus tellement, il n'en a plus l'usage en tout cas, donc je ne vois pas quel regard il peut apporter. Et nous ne travaillons pas forcément directement avec l'historien qui, pourtant, lui, pourrait avoir un regard, à mon avis, plus éclairé que celui du producteur.
Albert Dichy, avec qui est-ce que vous travaillez ?
Écoutez, nous travaillons effectivement avec des historiens, avec des littéraires, avec l'IMEC a été constitué au départ pas tellement par des conservateurs ou des archivistes, mais plutôt par des chercheurs. Ça, c'est peut-être un des points, d'origine de l'IMEC, c'est l'ouverture vers la recherche qui a été prioritaire. Et ensuite, évidemment, nous sommes équipés pour pouvoir répondre à nos missions. Mais
est-ce que d'ailleurs dans vos missions à l'IMEC, Albert Dichy, l'accessibilité des archives fait partie de ces missions ? Ou bien est-ce que vous pouvez peut-être confronter, j'imagine, à ne serait-ce que la question des droits d'auteur peut être un obstacle à une mise à disposition, en tout cas une mise à disposition immédiate des archives que vous détenez ?
Pas tellement les droits d'auteur, je dirais, mais plutôt d'abord les droits d'éditeur aussi. Mais je dirais plutôt que c'est... l'idée d'ouvrir des archives contemporaines plus rapidement en France à la recherche a été une des idées fortes du début de l'IMEC. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'en France, les archives mettaient beaucoup de temps à parvenir à s'ouvrir à la recherche. Et notre idée était aussi d'accompagner les auteurs et leurs héritiers qui nous confient les archives à accepter d'ouvrir plus vite leurs archives.
Donc vous avez peut-être contribué à bousculer un petit peu certaines habitudes.
Et notre travail s'est fait beaucoup en concertation avec des chercheurs. Et l'IMEC est constitué, dans la direction de l'IMEC est constituée par des chercheurs.
Céline Guillon.
Oui, moi je pense qu'il faut qu'on continue à travailler avec les producteurs et les historiens compte tenu de cette double usage et cette double valeur des archives, objets juridiques et objets patrimoniaux. Il faut aussi continuer avec les services producteurs parce que au quotidien, les archivistes, quand ils collectent les archives, ils sont aussi confrontés à la réticence des services producteurs à verser, à confier leurs archives aux services publics d'archives. Et donc on se retrouve dans des situations où des documents, des archives qui sont librement communicables ne sont pas dans les services d'archives qui organisent l'accès aux archives, mais restent dans les administrations et du coup ne sont pas connus puisqu'ils ne sont pas décrits, puisque le travail de description c'est le cœur du métier de l'archiviste aussi, ne sont pas connus et ne sont pas accessibles aux historiens. Donc il y a un véritable enjeu sur cette qualité de la collecte et sur ce travail en commun, ensemble, entre producteurs, archivistes et historiens.
Il y a encore quelques obstacles auxquels vous êtes confrontés, donc Raphaël Branche.
Non, mais tout le temps, en réalité, puisque les archives ne sont pas accessibles autant qu'on l'aimerait, parce que parfois elles ne sont pas inventoriées, par exemple. Donc c'est pas qu'on veut nous les cacher, c'est qu'on n'a pas le temps de les inventorier. Mais effectivement, moi je suis très sensible à cette idée de sensibiliser les producteurs encore, parce que on en a même parlé avant l'émission avec vous. On est producteur d'archives, parfois en l'ignorant. Hein. Et donc, on détruit des archives sans le savoir. Donc, le souci...
Oui, je parlais de la documentation, par exemple, qui me sert à faire cette émission, que je jette tous les soirs.
Ce sont des archives publiques.
Alors, ce sont des archives publiques. Donc, en fait, sensibiliser les producteurs, ça veut aussi dire tout simplement que les administrations laissent du temps aux gens pour confectionner leurs dossiers. Enfin bref, donc il y a beaucoup de choses à faire autour de cette prise de conscience de l'archive.
Eh bien, Hervé Lemoine, j'ai l'honneur de vous remettre officiellement, vous voyez, la documentation qui m'a servi à préparer cette émission. Émission qui mérite le titre d'archive essentielle.
Écoutez, je vais regarder ce que vous avez fait. Et si c'est pas intéressant, je viserai un visa d'élimination tout à fait en bonne et due forme. Donc, vous ne serez plus dans l'illégalité, vous voyez.
Je rassure les auditeurs pour si éventuellement vous détruisiez ces archives, vous pouvez toujours écouter l'émission en allant sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre, en la téléchargeant. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous l'avez aussi longtemps que le MP3 vivra, ce qui n'est peut-être pas si longtemps que ça d'ailleurs, on verra bien. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Hervé Lemoine, Raphaël Branche, Céline Guillon et Albert Dichy. Je précise, évidemment, on ne pouvait pas faire le tour de la question en seulement 40 minutes, mais ne ratez pas la Fabrique de l'Histoire à partir du 11 décembre, toute une semaine qu'Emmanuel Laurentin et son équipe vont consacrer à cette question des archives.
Et la pétition est toujours en ligne.
Nous dit Raphaël Branche. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Monseigneur, j'allais dire.
Allez-y, faites-vous plaisir. Allez-y, Hervé Gardette. Archive aussi pour nous, notamment avec l'exposition Paysages français à la Bibliothèque nationale de France. C'est une des trois expositions dont nous allons parler à partir de 19h03 dans La Dispute et dans Du Grain à Moudre demain, Hervé.
La parole libérée des victimes est-elle sacrée? Ce sera notre partenariat mensuel avec le journal La Croix.
Merci beaucoup. Tout de suite à 19h, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.